Alors, on m'a demandé d'intervenir à cette université populaire sur le thème de la laïcité. Mon propos, évidemment, celui d'un élu politique, donc engagé, et je dois à l'honnêteté de dire que ça va se ressentir dans le regard que je porte sur la question que nous allons évoquer. Je suis de culture socialiste, tout le monde le sait. Et donc je me rattache au regard d'un Jean Jaurès, pour prendre la tradition française, d'un Karl Marx, si vous en voulez d'autres. Je préfère le dire parce que, de cette manière, vous savez de quel point de vue j'observe, ou peut-être vous pouvez deviner de quel point de vue j'observe les faits, et j'essaye de comprendre le monde qui m'entoure. Évidemment, c'est un point de vue de praticien aussi. Je suis dans l'action, et pas dans, avec le recul et la qualité du regard que donne le recul lorsqu'on est un chercheur, un scientifique, un historien, un philosophe. Bon, ce n'est pas ma situation. Je suis dans la mêlée. J'y participe des fois avec gourmandise, d'autres fois avec ennui, toujours avec passion. Et je pense que ça se ressent aussi dans le regard que je porte sur l'histoire, parce que lorsque je traite d'histoire, je m'y vois, comme beaucoup d'entre vous peut-être. Hein, je m'y applique. Je me demande ce que moi-même j'aurais fait, quelle décision j'aurais pris dans tel ou tel contexte. Ça, c'est pour présenter celui qui parle et faire acte non pas de modestie ni de repentance, toutes ces maladies contemporaines finalement assez ridicules, mais pour relativiser l'autorité du propos que je tiens. Alors, la réflexion... Bien sûr, je crois connaître quelques-uns d'entre vous. Je n'ai pas l'arrogante prétention de vous re-raconter l'histoire de la loi de 1905, repasser en revue le détail du contenu. J'ai choisi un autre plan qui soit respectueux de la vocation universitaire, d'une université populaire, c'est-à-dire didactique, porteuse de contenu et de savoir, et un angle d'actualité. Dans les deux cas, évidemment, la critique qui peut s'exercer sur mon propos n'est pas tout à fait de même nature. La première est d'ordre historique. La seconde est que nous avons tous des points de vue différents, fort heureusement, sur l'actualité, puisque c'est là-dessus que repose l'idée républicaine d'après laquelle, en délibérant tous ensemble, nous finissons par fixer l'intérêt général. Ça va être une des idées que je vais développer. Mais donc, je propose pour commencer et pour situer la place particulière du débat à propos de la laïcité, de le mettre dans son environnement philosophique et politique, plutôt politique que philosophique. On peut tous commencer par le commencement, c'est-à-dire observer ce que sont les sociétés humaines, en commençant par les plus petites, peut-être, les sociétés initiales, en essayant d'imaginer ce qu'elles ont été. On connaît tous... cette phrase du philosophe Aristote, l'homme est un animal social. Bon, nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour le vérifier. Nous sommes radicalement interdépendants les uns des autres. Hommes et femmes, enfants et adultes, pour commencer peut-être à l'échelle de la famille, puis du clan, puis de la tribu, et ainsi de suite. Et dès lors que nous sommes interdépendants radicalement les uns des autres, eh bien, commence à s'installer quasi spontanément, dès que des êtres humains sont là, une division du travail entre eux. Et qui dit division du travail, dit nécessairement un ordre social, si limité, si frustre qu'il soit, c'est un ordre social. Alors, si on regarde sur des tout petits groupes, la légitimité de l'ordre, la légitimité de l'injonction qui est faite à chacun, elle tombe sous le sens, il s'agit de survivre. Et donc, les plus anciens donnent aux plus récents les bonnes recettes pour survivre. On ne doit pas faire ceci parce que cela, on ne doit pas faire comme si, on doit planter à tel moment et pas à tel autre. Et ce sont des injonctions qui sont vitales. L'expérience, la transmission par la tradition, et c'est ce qui va donner sa force initiale à la tradition, c'est un élément de survie. Dès que la société se développe et que la division du travail s'accentue à mesure que le nombre des êtres humains s'étend, eh bien cet ordre social devient plus complexe. Et finissent par apparaître des gens dont la fonction essentielle est de le faire respecter. Et tout de suite commence la question qui va se poser à travers toutes les sociétés politiques. Quelle est la légitimité de l'ordre? Quelle est la légitimité du pouvoir qui donne l'ordre et le fait respecter? Au nom de quoi? La première de ces légitimités, c'est le plus costaud. Celui qui est le plus fort, si t'es pas content, viens le dire. Et la question est réglée à coup de poing ou à coup de bâton, enfin... Je ne vais pas me lancer dans des détails plus sophistiqués qu'appellerait l'examen des sociétés. Hein. Mais je le résume, je le caricature pour me faire comprendre rapidement et passer à mon point suivant. Ce sera le cas souvent dans mon exposé. C'est la première forme. La deuxième forme, c'est que le maintien de l'ordre par la force est extrêmement dépensier. C'est coûteux et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le plus simple, c'est la tradition. Vous respectez l'ordre parce que vous y consentez. Et vous y consentez parce qu'il vous paraît utile. Ou parce que vous n'avez pas d'imagination. Ou parce que, bon, parce que ça a toujours été comme ça. Moi, je pense que quelques-uns d'entre vous dans cette expérience ont déjà entendu cette phrase. Hein. Je me rappelle dans mon village du Jura, on discutait, je ne suis pas vraiment du Jura, mais j'y ai passé assez de temps pour en être adoptif. Est-ce qu'on allait débroussailler tel endroit? Ben non. Pourquoi? Ben parce qu'on a toujours fait comme ça. C'était la raison ultime, qui souvent était d'ailleurs parfaitement hypocrite, mais c'était la raison ultime. Donc c'est une autre façon de consentir à l'ordre, c'est la tradition, pour autant que la tradition est porteuse de sens et est capable de se faire respecter. Mais dès lors que la société est tenaillée par des intérêts contradictoires, là ça n'est plus seulement le consentement, les idées que chacun se fait du rapport aux autres, c'est la défense mordicus de l'intérêt dans lequel on est soi-même pris et qui vous paraît être évident. C'est clair que ceux qui dominent, c'est les plus intelligents, vous en êtes tous d'accord. Hein. Ben évidemment, en tout cas, eux, ils sont d'accord avec ça. Je pense que c'est ça, c'est la raison pour laquelle ils dominent, c'est parce qu'ils valent mieux que les autres. Bon, j'ai pris là aussi un exemple caricatural, mais chacun m'entend. On voit qu'il y a tout de suite une conjonction, enfin, il y a en quelque sorte trois mots qui marchent ensemble, ordre social, autorité, légitimité. Et d'entrée de jeu, l'autorité politique, au sens large, hein, sur la cité, sur le groupe d'humains, est une autorité qui n'est pas seulement, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, au sens moderne, une autorité pratique, concrète, par délégation. C'est une autorité qui est extrêmement globale. Elle couvre toutes les raisons pour lesquelles je vous donne des ordres. Et en particulier, le fait que moi-même, je ne suis que l'instrument d'une raison d'agir plus grande que moi. Ça va être la tradition, mais évidemment la divinité, ou les divinités. Et nombre de sociétés, au fil du temps, ont montré que ordre religieux et ordre politique, c'est une seule et même chose au point de départ. Ils ne se différencient jusqu'au point que l'un veut gouverner l'autre qu'au fil du temps, du développement de la société humaine, de l'accumulation des richesses, de la sophistication de la société. Mais au départ, c'est la même chose. Souvent, le roi est en même temps le prêtre. Et de fait, le prêtre devient le roi. Et ainsi de suite. On a après, dans des temps de l'histoire plus proches, comme par exemple la Rome antique, la religion d'État est une religion quasi-civile. Jules César, qui avait à peu près autant de moralité que Frédéric Mitterrand, était Pontifex Maximus, c'est-à-dire qu'il avait été élu par le collège des prêtres de Jupiter comme le Pontifex Maximus de Rome. Il a donc été en quelque sorte une sorte de pape avant l'heure, hein, de la religion civile des Romains, qui était pas très regardant sur le contenu de la religion et qui acceptait à peu près tout en même temps, à condition que l'essentiel soit protégé, c'est-à-dire l'autorité de l'empereur. L'empereur n'ayant pas le même sens, le mot n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, hein, c'est dans la hiérarchie des pouvoirs, donc ça n'a pas le même sens, mais le fond reste le même, c'est le pouvoir. Et c'est la condition. Donc, du moment qu'on reconnaissait le caractère divin de l'empereur, tout le reste, on faisait comme on le sentait. C'est d'ailleurs ce qui va poser un problème, parce qu'il y a une catégorie qui s'est jamais laissée englober, toutes sortes de gens se sont laissés englober, mais il y a au moins une religion qui s'est jamais laissée englober, qui est la religion mosaïque. Les juifs de Palestine n'acceptent pas de mettre le buste de l'empereur dans leur synagogue, et ce qui va occasionner une confrontation terrible entre l'empereur Vespasien, son fils Titus, jusqu'au point où on a tout rasé, les Romains ont rasé le deuxième temple, parce que l'irrédentisme juif s'oppose absolument à la volonté de l'ordre politique d'établir une autre représentation divine que celle à laquelle les gens croient. C'est pour dire que ce petit exemple que je prends en cours de route, qui confronte un État politique et social à un moment donné où il ne peut plus englober sur la base du communautarisme. C'est-à-dire, il prend tout le monde, il prend toutes les religions, il prend toutes les croyances, il s'en fiche, il les juxtapose, à condition que tout le monde respecte l'ordre social que contient l'empereur, qui est de nature divine, parce que sinon vous n'avez aucune raison de lui obéir. c'est un signal intéressant parce que c'est celui qu'on va retrouver tout le temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je me soumettrais à tel Dieu alors que moi, je pense que c'en est un autre qui me donne des raisons de vivre et d'espérer, comme ce sont des questions sérieuses, je ne négocie pas. D'ailleurs, la religion n'est pas de l'ordre de la discussion. C'est de l'ordre du dogme. C'est une vérité révélée. Hein. Je pense que s'il y a des croyants dans la salle, ils ne me contrediront pas. La vérité venant de Dieu n'est pas à discuter. Elle est, on peut se l'approprier, on peut le, mais elle n'est pas discutable. Bon, c'est de l'ordre du dogme. Donc vous voyez que cette conjonction du pouvoir civil et du pouvoir religieux ne peut fonctionner pleinement qu'à deux conditions. Soit la religion est tellement syncrétique qu'elle absorbe tout, ce qui fait que ça n'en est plus vraiment une. Notamment quand on va passer du polythéisme au monothéisme, il y a quand même un gros problème, on ne peut plus englober. Hein. Et ensuite, la deuxième difficulté, c'est que dès qu'on n'est plus d'accord, eh bien, il n'y a plus moyen de départager qui a raison. Autrement dit, ce qu'on avait d'abord réglé en passant du pur et simple rapport de force à l'autorité consentie et intériorisée par le biais de la norme religieuse, vous revient tout droit sur les genoux, puisque nous ne sommes pas d'accord sur la source de l'autorité, comment allons-nous quand même vivre ensemble et nous soumettre à des lois, surtout si ces lois empiètent sur ce que la religion nous enseigne. Or, le contenu des religions, tel qu'il se, il est professé initialement, est un contenu extrêmement précis. Nous, à notre époque, et dans les sociétés occidentales, qui sont assez profondément déconfessionnalisées, le rapport à la religion est extrêmement souple. Enfin, l'était jusqu'à une date récente. Bon, chacun faisait un peu sa popote avec sa propre religion. Il est clair que ça ne correspond pas du tout au contenu des dites religions, qui sont extrêmement prescriptives sur toutes sortes de sujets, sur les rapports hommes-femmes, sur ce qu'on peut manger, quand, où, comment, sur ce qu'on doit faire à tel ou tel moment, et certaines religions sont extrêmement précises, quasiment au fil du jour. Donc les injonctions religieuses ne sont pas seulement, comme le prétendent d'aucuns, des injonctions morales en général, il vaut mieux être bon que méchant, il vaut mieux être obéissant que désobéissant, c'est pas seulement ça, c'est une chose très précise. Et pour les gens qui ont la foi et qui suivent leur doctrine religieuse, ces prescriptions sont très difficilement négociables puisqu'elles viennent de Dieu. On doit le comprendre, si on veut comprendre pourquoi la question ressurgit régulièrement dans l'histoire avec une telle violence. Donc la conjonction de ce pouvoir, autorité, légitimité, ordre social, c'est la question constante de la politique. Bah, religion ou pas. C'est comment faisons-nous pour vivre ensemble, étant entendu que nous vivons ensemble parce que nous y sommes contraints. D'ailleurs, aucun d'entre vous n'imagine d'aller vivre tout seul. Hein. D'ailleurs, c'est pas tenable. C'est tout simplement impossible. Puisque nous devons vivre ensemble, donc nous devons avoir des règles, donc nous devons les respecter, qui se charge de les édicter, qui se charge de les faire respecter. C'est ça le sujet de la politique. Alors, chaque fois que ce lien-là se dénoue, c'est la société elle-même qui se dénoue et qui s'atomise et retourne à une autre étape de son développement. Lorsqu'elle s'était élevée du clan à la tribu, de la tribu à plus, on ne va pas appeler ça des nations, parce que le mot nation est une idée moderne, qui date de la Grande Révolution française, un royaume ou ce que vous voulez, un empire, eh bien chaque fois que ce lien autorité, légitimité, pouvoir, ordre social se détend, ben, la société recule d'un cran, enfin recule, revient au statu quo ante, la tribu quand il était au royaume, au niveau du royaume, le clan quand il était au niveau de la tribu. Et continuellement, le nombre des êtres humains, leur interdépendance, la circulation, l'organisation de toutes les fonctions de la vie, le commerce, obligent à la reconstitution d'une autorité qui fait respecter un ordre social, des lois, des règles. Bon, voilà. Ne serait-ce que quand vous faites du commerce, l'obligation de payer ce que vous avez acheté ou de l'échanger contre quelque chose, et non pas, après avoir pris ce qui vous intéresse, de sortir votre bâton ou votre revolver, ça nécessite qu'il y ait une force qui garantit la stabilité et les relations. Alors bon, voilà. J'en viens maintenant à notre pays, parce que sinon on n'en finirait pas. Quand je dis notre pays, je veux le faire avec toute la rigueur que nécessite cette expression. Parce que qu'est-ce que notre pays? C'est quelque chose, comme vous le savez, qui paraît-il est en débat aujourd'hui. Et bon, donc les frontières ont tout le temps changé, les gens qui le composent sont de confessions extrêmement diverses, il y a 4 religions chez nous, de couleurs de peau complètement différentes, donc il n'y a rien de visible, ou même rien de discernable qui nous réunit, et qui nous permet de parler d'un « nous », sinon par la société politique que nous constituons ensemble. C'est le sujet de la fin, Donc là, j'en suis à un moment précis où la société s'étant déliée, elle se renoue. C'est intéressant de voir sur le territoire de notre pays actuel la naissance, d'après certains, hein, de notre pays, c'est le moment où le roi Clovis est baptisé. Et d'ailleurs, le président de la République s'étant réclamé de cet épisode folklorique à Rome, nous sommes, apparemment, il a l'air d'y croire lui, donc il n'est pas très bien renseigné. Ce fait n'a absolument rien d'historique. Il est, dans son cas, aggravé par des assertions historiques complètement fausses, du genre c'est le premier royaume chrétien. C'est la première fois qu'il y avait un roi chrétien. Non, c'était pas le premier royaume chrétien. L'empereur Constantin était chrétien. Avant que le roi franc Clovis lui-même devienne chrétien, son épouse l'était, et d'autres l'étaient, d'autres seigneurs l'étaient. Donc tout ça est un arrangement, et c'est un arrangement qui est daté dans le temps. Le premier qui a commencé à écrire une histoire des Francs, c'est Grégoire de Tours. Ça se situe... Alors le baptême de Clovis, c'est 496, comme ça, le baptême entre guillemets. Hein. Celui qui commence à raconter pour la première fois cette histoire, c'est Grégoire de Tours, à qui j'ai attribué un ouvrage qu'il n'a pas écrit. Parce que vérification faite, c'en est un autre, qu'il a écrit. Et Grégoire de Tours, c'est 572. Il écrit une histoire des Francs qui va donner lieu à une légende sacrée et politique, Gesta Dei per Franco, c'est-à-dire ce qui se passe à cet endroit-là, c'est l'œuvre de Dieu à travers les Francs. Donc la main de Dieu dans l'histoire se traduit par l'action des Francs. Et donc il fait remonter, lui, Grégoire de Tours, tout ça au point de départ, qui est le baptême de Clovis. L'historien, lui, il a un autre regard sur cette affaire. Il se trouve que quand Clovis, petit roi franc, s'avance dans les Gaules, il rencontre, et son intérêt politique rejoint celui de l'Église chrétienne de l'époque, parce qu'elle est en proie à une hérésie, comme il va y en avoir tout au long de notre histoire. Hein. Et là, il s'agit de l'hérésie arienne, je ne vous la décris pas, parce que d'abord, je n'en suis pas assez connaisseur, mais les responsables de l'Église, qui eux aussi ont un problème de cohérence, au moins aussi grand que celui du pouvoir, ont besoin d'un bras armé. Et donc, le soi-disant baptême de Clovis, c'est la jonction entre l'Église chrétienne de ce temps et un roi franc, l'un et dans l'autre, l'Église sacralisant l'action du roi franc, et le roi franc donnant force par son bras et ses armes de conviction, à réduire l'hérésie arienne. Et de cette manière, se noue le premier rapport qui va être spécial, oui, en effet, particulier, entre l'Église et le pouvoir sur le territoire de l'actuelle France, et qui va ensuite, bien sûr, être très contagieux, parce qu'on va refaire partout la même chose. Mais ça a été très loin. Hein. Nous devons être le seul peuple dont un des rois a été canonisé. Le roi Saint-Louis, comme c'est encore malencontreusement écrit au Sénat, où il y a sa statue, alors que ce personnage ne présente absolument aucune espèce d'intérêt pour la République, sinon comme contre-modèle, car son véritable nom est Louis IX, c'est lui qui a inventé le port de la rouelle par les Juifs, le percement de la langue au fer rouge pour les hérétiques, et organisé quand même une croisade, ce qui quand même est un palmarès républicain assez médiocre, et une référence morale tout à fait discutable. Hein. On peut même dire assez condamnable. Mais au moment où ça se fait, le pacte entre l'Église de ce temps et la royauté en France est extrêmement fort, au point que le pape Grégoire IX dit la chose suivante, on se situe vers 1280. Hein. Il écrit ça, « Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. » Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Comme ça, les choses sont claires. Et c'est cette alliance, bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne tant que tout le monde est d'accord. Mais dès que quelqu'un dit « Ah, mais pas du tout, c'est pas ce que vous dites, il se trouve que Dieu dit autre chose », alors la raison pour laquelle quelqu'un est conduit à nier la parole officielle peut être une raison qui n'a rien de religieux. Je ne vais prendre qu'un exemple pour illustrer mon propos, mais il a été d'une telle portée historique pour la constitution du royaume de France qu'il faut l'évoquer. C'est la croisade contre les Albigeois. c'est-à-dire les Qatars. Hein. Bon, la raison pour laquelle le qatarisme, qui est une doctrine, je ne veux choquer personne, je ne sais pas s'il y a des Qatars dans la salle, mais philosophiquement extrêmement étroite, qui est basée sur la pensée de Manichée, le manichéisme, tout ce qui est de l'ordre du concret et de la matière et du diable, et le reste, l'esprit, est de Dieu. Ce qui signifie que quand même la totalité de votre expérience réelle relève du démon et ne relève de la lumière que ce qui vous vient de l'esprit et de Dieu. Bon, merci. Alors il paraît que ça a donné lieu à des débordements incroyables parce que les gens disaient, bon, de toute façon, comme tout est perdu. Bon, je ne le crois pas. Mais la raison pour laquelle cette hérésie est devenue une hérésie populaire, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi c'est devenu comme ça? C'est parce que ça a été le mode de protestation du petit peuple et des secteurs, de certains secteurs les plus avancés de la société, ceux qui produisaient, ceux qui échangeaient, ceux qui faisaient du commerce, ça a toujours été le problème des sociétés féodales, contre l'ordre féodal et contre l'ordre clérical de l'Église, dont les principaux dignitaires sont aussi des seigneurs féodaux. Il faut comprendre que là, le lien est complet. Ils perçoivent l'impôt une première fois comme religieux, une deuxième fois comme seigneur féodal. Donc c'est une protestation populaire. Et donc elle va donner un souffle à une hérésie, à une doctrine qui pour le reste est assez hermétique. Hein, et on ne peut pas penser que ce soit le seul mouvement des idées qui l'ait développé. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc en tout cas, ça, cette force propulsive. Comment régler le problème? Comment régler le problème? Eh ben, on a fait la première expérience de choses qu'on a ensuite fait de nombreuses fois. Une manière définitive de régler le problème, c'est demander aux gens de changer d'avis. Parce que le roi étant le roi du fait de Dieu, mieux vaut changer d'avis pour respecter à la fois Dieu et le roi. Parce que si on ne respecte plus Dieu, le lendemain, on ne va plus respecter le roi. D'ailleurs, ça commence. Sur place, les gens ne respectent déjà plus l'évêque, ni le seigneur féodal du coin. Donc, après les avoir enjoints de changer d'avis, eh bien, il reste une autre solution qui consiste à les tuer tous. Et c'est ce qu'on a fait dans la croisade des Albigeois. Les seigneurs du Nord sont descendus sur un Sud plus développé que le Nord, donc plus intellectuel, plus socialement développé, et ont massacré tous ceux qui n'étaient pas de cet avis. Et vous, peut-être que vous avez entendu parler de cette phrase incroyable au moment de la prise de Béziers, où l'évêque qui représente le pape dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». J'ai choisi cet instant-là, je pourrais en choisir d'autres, parce que je le trouve extrêmement parlant de la difficulté politique d'un pouvoir qui repose sur la religion, ou d'une religion qui adosse le pouvoir, parce que la difficulté est pour les deux, une fois que chacun s'est spécialisé dans une activité, l'un le pouvoir politique, l'autre le pouvoir religieux. Je le trouve parlant parce que, du coup, il fait émerger la question de savoir qui je suis, moi, personne qui est là. Je suis sujet du roi. Bien. Mais le roi est-il le roi de tous ses sujets? La question se pose dans son sens. Est-ce que même quand ses sujets ne sont pas d'accord avec lui, il est quand même leur roi? Et c'est cette double question. Est-ce que le pouvoir politique est le pouvoir de tous, d'un côté, et de l'autre côté, est-ce que moi, comme quelle est la nature de mon lien à tous les autres, qui va, en quelque sorte, travailler la société? Pas par l'œuvre métaphysique d'une grande idée, mais par le fait que c'est une question concrète, qu'il faut régler concrètement, qui procède de questions ordinaires. Hein. Au nom de quoi prenons-nous une décision? Je décide que vous êtes tous à la taxe. Bon, bah, il faut quand même que vous y croyez, parce que vous allez devoir donner votre argent, travailler, donner votre argent pour quelqu'un qui vous le prend, en vous disant que c'est pour votre bien, mais vous ne pouvez pas trop le vérifier. Surtout dans ces âges-là dont je vous parle. Hein. Bon. Je prends cet exemple de la collecte de l'impôt, parce que souvent c'est par là que commencent les difficultés pour faire reconnaître le pouvoir d'un roi qui est très lointain et qui agit sur vous. Ces moments sont quasiment transposables dans la modernité quand on veut bien y réfléchir. On a en France un deuxième exemple de cette tension. Qui à la fin a le dernier mot? Parce que cette question se pose. Je ne parle pas pour l'instant de la personne et du roi, mais quand le roi, lui, décide quelque chose, dans l'ordre de ce qui lui semble être l'intérêt de tous, et du royaume, et de sa propre personne, et que ce qu'il décide vient en contradiction avec la décision religieuse. Que se passe-t-il? Qui a le dernier mot? Là encore une fois, ce ne sont pas des débats purement métaphysiques, hein, ce sont des débats très concrets. Chez nous, la question explose d'une manière inouïe sous le roi Philippe le Bel. Ça se passe aux alentours de 1300 et des choses. Le roi Philippe le Bel, qui était un roi très politique, est très, très roi, d'un grand royaume, c'est déjà le plus grand à l'époque, décide, je ne veux pas vous emmêler dans l'histoire de détail, mais intervient sur la manière de prélever les impôts sur les ecclésiastiques. Ça ne traîne pas. Le pape dit, vous faites ce que vous voulez, mais les affaires d'église ne vous regardent pas. Donc, vous ne vous mêlez pas de la manière dont nous organisons la collecte des impôts et leur remise à l'église. C'est ça le point de départ. Après, ça devient une affaire beaucoup plus complexe parce que tout le monde est de mauvaise foi et que c'est une lutte politique qui va se finir dans la violence. Et le pape, c'est un Boniface VIII, qui a quand même lui aussi une forte nature, va commettre l'erreur de faire monter le ton, quoi. Et après avoir envoyé une circulaire dans laquelle il explique, elle s'appelle Clericis Laicos, elle explique pourquoi le roi n'a pas à se mêler de ce genre de questions. Comme le roi s'en mêle quand même, il le fulmine, parce que c'est le mot, une bulle, qui s'appelle Unam Sanctam, et qui explique, comme le pape commande dans l'ordre spirituel, il commande aussi dans l'ordre temporel. Et donc, ce que dit le pape a valeur de loi. Alors, les spécialistes de ces questions, que vous n'êtes pas, que je ne suis pas, disent que c'est un peu plus nuancé. Moi, ce que j'ai lu du texte me paraît pas si nuancé que ça, mais je suis un homme du XXIe siècle, et ça s'est été écrit en 1300, c'est donc au XIVe siècle. Et puis, il faut bien reconnaître que les méthodes de combat politique de l'époque sont assez modernes. Lorsque la bulle arrive, le frère du roi l'affiche au feu. Donc, personne n'a jamais eu le texte initial en France. Et pourtant, on a trouvé le temps d'en faire un résumé. Et c'est ce résumé qui a été soumis à la Sorbonne. La Sorbonne est à l'époque un collectif religieux, pas seulement comme aujourd'hui l'enseignement. Et les docteurs de la Sorbonne disent, nous on ne s'occupe pas de la bulle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne nous a pas demandé notre avis, et d'ailleurs nous on ne discute pas ce que dit le pape. Mais ce qu'il y a dans le résumé, on peut vous dire une chose, c'est une hérésie. Donc le roi dit, ah vous voyez, mes religieux disent que le pape est hérétique. Donc, je convoque le pape devant le concile des évêques de France. Évidemment, bon, je vous passe le reste de l'histoire, et nous avons là des hommes merveilleux. Je fais le lien avec l'affaire Cathare dont je vous parlais il y a un instant, parce que l'homme que le roi Philippe le Bel va mandater pour s'occuper de cette histoire, c'est un de ces robins. À l'époque, le roi de France prenait beaucoup d'hommes de lettres ou d'hommes de droit, qui prenaient à la faculté de Bordeaux ou de Montpellier. Et l'homme qui... retenez Montpellier, ça va revenir dans l'histoire dans un instant. L'homme qui fait ce travail est Guillaume Nogaret. Bon, il y a Guillaume Plaisant, Guillaume Nogaret. Et Nogaret a sa statue à Montpellier. Vous allez voir dans un instant pourquoi ça nous intéresse. Et Nogaret va se charger de mener cette bataille. Aussitôt, le pape dit, celui-là, on le connaît. On le connaît, c'est le fils d'un hérétique, le descendant d'un hérétique cathare. Il règle des comptes avec l'Église apostolique et chrétienne. Et donc, ça ne va pas se passer comme ça. L'histoire va jusqu'au point où, à la faveur d'un concours de circonstances, je vous raconte tout ça pour que vous sentiez la tension entre le politique et le religieux, mais qui n'est pas émancipé du religieux. Le roi ne dit à aucun moment « je ne suis pas chrétien et je ne suis pas nommé par Dieu ». Il ne dit ça à aucun moment. Il dit « c'est moi le chrétien et c'est lui l'hérétique ». Donc, il fait en quelque sorte une captation de l'autorité religieuse, parce qu'il comprend très bien qu'il ne peut pas tenir le coup s'il laisse à l'autre le pouvoir de dire « toi, tu es un hérétique, celui-ci, non ». Et donc, en définitive, au pape, non seulement de commander au temporel, mais de désigner qui commande au temporel, en son nom et au nom de Dieu. Donc, Nogaret, à la faveur de circonstances qui sont attribuées à un complot, moi je n'en crois pas un mot, va citer le pape à comparaître devant le concile des évêques de France, et le pape est à ce moment-là à Agnani, sa citadelle, et il se trouve que le jour où Nogaret arrive, allez savoir pourquoi, des bandes italiennes qui étaient en affrontement avec le pape pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, venaient d'envahir le château dans lequel était le pape. Je vous raconte la scène juste pour que vous voyez comment la rigueur et l'obstination politique sont indispensables quand on a un projet, et que ça date pas de moi. Nogaret entre dans la salle où le pape est au lit, dans le lit. Et les gens sont en train de se battre partout autour, jusque dans la chambre. Et lui, il vient avec son papier, et il a quatre pennons, dans des trucs avec un petit drapeau, et il en met quatre autour du lit, il sort son papier, et il le lit, il cite à comparaître le pape, il remballe le papier, il ramasse les quatre pennons, et il s'en va. C'est l'époque où on est formaliste, juridique. Donc formellement, le pape a été cité à comparaître par le roi de France, dans une ambiance d'émeute que vous imaginez. De sorte que, là encore, beaucoup de paramètres sont intervenus. Le pape est mort 3 jours après. Les uns disent de peur. Les autres disent de dégoût, parce qu'il a bien senti que c'était fini, surtout ces histoires avec les autres Italiens. Et de là s'est répandue la légende d'après laquelle le pape aurait reçu une gifle de Guillaume Nogaret et du roi de France et qu'il en serait mort. Je suis allé jusqu'à ce point de détail pour qu'on comprenne que la lutte entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux est rarement dans l'histoire une lutte ouverte portant sur le principe de qui commande dans la société. Elle a toujours une forme biaisée. Hein, et c'est la raison pour laquelle nous, à notre époque, on a intérêt à ne pas la laisser biaiser. Ce qui est en cause, ce n'est pas la foi, c'est qui commande. Parce que quand on a dit qui commande, on a en même temps dit qui c'est qui obéit. Et au nom de quoi ? Est-ce de la vérité révélée ? Est-ce d'autre chose ? L'invention moderne, c'est la délibération collective. J'ai pris donc ce deuxième exemple parce qu'il vous montre que sur le territoire de la République française actuelle, la tension entre le politique et le religieux a été constante depuis le début. Donc la question de la laïcité n'a pas surgi d'un colloque ni d'un complot maçonnique, comme le prétend l'Église romaine, souvent, ou les gens qui parlent en son nom. Elle résulte d'une histoire concrète dans laquelle nous avons été confrontés à la difficulté concrète de savoir qui obéit à quoi, ou plus exactement, qui commande à quoi. J'ai donné Philippe le Bel, là vous voyez, on est en 1300. On est loin des guerres de religion. Mais elles ont lieu, les guerres de religion. Et quand elles commencent, on recommence tout à zéro. Première solution, tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Comme ça, le problème est réglé. Mais il se trouve que le royaume de France est le plus grand d'Europe à ce moment-là. Il n'y a pas d'équivalent à une entité politique unifiée comme celle-ci. En Allemagne, c'est très simple. S'applique la règle qui ensuite va devenir la règle générale, cuius regio, eius religio. De leur roi, la religion. Le prince est catholique, tout le monde catholique. Ceux qui sont protestants, dehors. Ils vont chez le voisin, qui le leur rend bien. Si le prince est protestant, tous les catholiques, dehors. Et tout le monde est protestant. Ça, c'est jouable quand vous fonctionnez par petites entités, avec des gens qui, si j'ose dire, hein, qui sont déracinés, qu'on fait pas ça. Mais comment on fait dans le royaume de France? Comment on fait quand même pas la langue est commune? D'abord, tout le royaume ne parle pas le français, évidemment, ça va de soi. Le français est la langue officielle depuis François Ier. Mais tout le monde ne la parle pas. Jusqu'au début du XIXe siècle, tous les Français ne parlaient pas français. Mais à l'intérieur de chaque langue, la langue d'oc, la langue d'oil, les gens sont partagés entre catholiques et protestants, pour des raisons de foi, bien sûr, mais aussi des raisons d'intérêt, telle Châtellenie, du moment qu'elle est catholique, donc l'autre en face qui est protestant, et vice-versa. On ne peut pas dire que qui que ce soit là-dedans est brillé par sa tolérance ou son respect de l'autre. Simplement, les uns étant plus nombreux que les autres, ils ont eu la capacité de faire endurer plus de misère aux autres. Mais sinon, les premiers étaient capables de le leur rendre avec autant d'énergie. Hein. On donnera de très nombreux exemples où le parti des tolérants du côté des catholiques se sera désespéré d'être confronté à des violences inouïes de sectarisme du côté des protestants, dont tiraient les arguments les plus violents catholiques pour recommencer des représailles qui réamorçaient le cycle sans fin de cette lutte. Les guerres de religion, c'est pas une petite histoire chez nous. C'est pas un moment limité. Au total, elles auront duré, sous une forme ou sous une autre, 3 siècles. Et dans la période que j'évoque, parce que ce qui vous vient immédiatement à l'esprit, c'est la conclusion de cette période, l'édit de Nantes. Mais avant qu'on en arrive à l'édit de Nantes, et en même temps qu'on en vient à l'édit de Nantes, il y aura eu 2 rois assassinés du fait du fanatisme religieux. Car le roi Henri III est assassiné par un fanatique, le moine Clément. Mais le moine Clément, lui, n'est pas sorti de sa boîte comme un dingo aujourd'hui aux États-Unis qui tire sur tout le monde après avoir vu la télé. C'est quelqu'un qui lui aussi a vu la télé, mais il est conditionné par l'appareil de son époque. Et à l'époque, la bataille, elle est géopolitique entre tout ce qui est à l'est du royaume, qui sont les zones protestantes, allemandes, hollandaises, et au sud, le royaume ultra-catholique des Espagnols. Et chacun active sa fraction. En France, le chef de la fraction des catholiques, lié à l'Espagne, est le duc de Guise, qui dirige la Ligue catholique. Le duc de Guise, fort malheureusement, aura été assassiné dans la chambre du roi de France, c'est-à-dire l'ambiance. Peut-être avez-vous entendu cette phrase, « Tiens, il est plus grand mort que vivant ». C'est dire qu'on avait de l'humour à l'époque. Je dis ça pour détendre. Hein. Mais on voit que la lutte a été extrêmement sévère. Mais ce que préparait le roi Henri III, c'est ça qui nous intéresse, c'est que n'ayant pas de fils, n'ayant pas d'enfant d'ailleurs, sa succession ne pouvait être, d'après la vieille loi salique, accomplie que par l'aîné de la branche aînée de la famille, de sa propre famille, c'est-à-dire Henri de Navarre, protestant. Donc, ce n'est pas une bataille, comment dire, simplement d'idées, de concepts à propos de la place des saints ou du statut de la Vierge, tout ça. Mais tout ça existe, bien sûr, entre religieux. Mais il y a quand même la question politique qui est posée. Est-ce qu'un protestant peut devenir roi de France? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut être roi de tous ses sujets, quelle que soit la religion, puisque lui-même n'aurait pas la religion de la majorité de ses sujets? Il finit, comme vous le savez, par se convertir au catholicisme, ce qui ne convainc personne à l'époque. Il ne faut pas croire qu'ils étaient plus naïfs que nous. Mais le roi Henri IV ne s'est pas contenté de mettre la poule au pot. Il a également levé de nombreuses armées qui a aidé tout le monde à bien comprendre où était le pouvoir. Et surtout, toute une élite politique comprend qu'il faut faire tenir ce système-là. Que si l'autorité et la légitimité ne vient pas d'une loi finalement abstraite et non religieuse, l'homme est né de la branche aînée. Ah, il n'y a plus de bon Dieu là-dedans. On retrouve quelque chose de la bataille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui commande? Au nom de quoi? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la religion qui va désigner? La réponse est non. C'est l'ordre politique. Personne n'a à discuter parce que nous, on fait comme ça chez nous. Et c'est donc un moment extrêmement important. Et les élites, les Robins de l'époque, eux prennent absolument parti pour Navarre parce que c'est la royauté française au-delà de tout pouvoir. Et vous trouvez là-dedans des gens qui sont plus ou moins engagés. Certains, vous ne le savez pas, pour ceux qui ont des lettres, mais certains, beaucoup, et même en secret. Par exemple, Montaigne a été un agent extrêmement actif du principe de l'hérédité monarchique comme fondement du pouvoir. Donc peu importe de quelle religion est le roi. Mais franchement, l'idée n'a pas été inventée à ce moment-là. Elle a cheminé. Par exemple, dans la biographie de la Médicis par Madame Orbieu, on trouve une lettre de la Médicis qui dit « Mais quoi, la femme ? Parce que cette femme, elle, il faut qu'elle reste au pouvoir. » Elle dit « Mais le roi est le roi de tous ses sujets. » « Ah, mais non, disent les ligards de l'époque. Il n'y a pas du tout. Le roi est roi du fait de Dieu, et il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le royaume de Dieu en personne. Donc il doit défendre cette réalité-là. » Donc ce moment de notre histoire aussi est très important. Parce que nous n'avons pas été capables, je dis nous, les miens ne s'y trouvaient pas, je dis nous par appropriation, comme pour vous, nous n'avons pas pu régler le problème sur la seule base raisonnable qu'il y avait, qui était de massacrer tout le monde. Ce qui a été fait ailleurs, ou d'expulser tous ceux qui nous déplaisent. Parce que le pays est trop grand, et tous les pays, et même les tout petits pays, sont partout coupés en deux. Nulle part vous avez 100% de protestants, 100% de catholiques. 100% de catholiques, oui, dans beaucoup d'endroits. Mais nulle part 100% de protestants. L'édit de Nantes est en progrès, puisqu'on siffle la fin du massacre, mais sur le plan politique, il est assez largement inacceptable. Car, comme garantie donnée aux protestants, il y a le fait qu'ils ont des places fortes. Si on commence à dire « la garantie que vous avez, c'est de vous organiser dans telle ville, vous faites ce que vous voulez », et vous avez vos forces armées, vous voyez bien que ça ne tient pas. Et d'ailleurs, l'édit de Nantes, dans cet aspect-là, c'est-à-dire addition et juxtaposition de communautés, va petit à petit voler en éclats, d'une part, parce que les protestants eux-mêmes sont bons sujets du roi et sont beaux français. Donc eux-mêmes ne sont pas forcément très friands de cette organisation séparée, premièrement. Et deuxièmement, parce que la centralisation monarchique est une force plus grande que le féodalisme, pour une raison toute bête. Contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, qu'on trouve très moderne, la proximité et toutes ces sornettes. C'est qu'à l'époque, le roi, justement, il est loin. C'est l'intérêt, il ne vous connaît pas. Donc, quand vous allez voir ces juges, ce n'est pas le seigneur du coin qui vous connaît depuis quatre générations, qui a connu votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, et qui donc délibère en ayant tout ça à l'esprit. C'est quelqu'un qui rend la justice d'appel, après que tous les autres soient prononcés, et d'après un droit, le droit du roi, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais il existe, il y a une cour, il y a un parlement, il y a des choses de cette nature. Là aussi j'ai caricaturé, mais j'essaye d'expliquer que le processus de centralisation monarchique, qui a quand même tellement marqué notre pays, lui-même il est ancré dans une réalité qui part du peuple, qui vient du grand nombre, qui voit son intérêt à être plutôt du roi que du seigneur féodal du coin. Ça a toujours été comme ça, sauf depuis quelque temps, paraît-il. Donc, Vous avez, bon, les plus anciens, ceux qui ont lu, appris leur histoire dans les mêmes bouquins que moi, on voit le cardinal Richelieu en botte, en train de faire le siège de La Rochelle. Bon, l'édit de Nantes n'a pas été abrogé. Mais la possibilité pour les protestants de disposer de places fortes, oui, ça a été abrogé. Cette tension va rester dans le royaume. Et elle va traverser toute son histoire, jusqu'à la révocation par un bigot fanatique de l'édit de Nantes, c'est-à-dire le roi Louis XIV. Et comme naturellement, il ne suffisait pas qu'il ait révoqué, une fois qu'il a révoqué, ça coûte 5 minutes, le temps de signer. Et après, il faut faire face à la réalité que l'édit de Nantes contient, à savoir comment faire vivre des sujets de foi différentes sous l'autorité d'un roi qui déclare qu'il y a une religion d'État. Donc, une nouvelle fois, la seule méthode connue, c'est de tuer tout le monde. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se convertir séance tenante, sont maltraités, bon. Et c'est la période des dragonnades. Il y en a eu dans tout le pays. Spécialement dans le Languedoc, et spécialement dans cette magnifique région d'Anduze, où est partie la révolte des Camisards. Et elle est émouvante, cette histoire, parce que on va la voir, je donne des repères, hein. Tout à l'heure c'était le catharisme qui transitait à travers Guillaume Nogaret, à l'instant je vous ai parlé de Louis XIV, j'ai oublié de vous reparler de Montpellier, c'est parce que quand commencent les dragonnades, pour terminer, le roi assoit son pouvoir sur le Languedoc, et à Montpellier, il y a une place sur laquelle vous avez le roi à cheval, en armes, hein, avec des croix partout, pour montrer que le roi et la religion ont triomphé. C'est dans la même ville où se trouve la statue de Nogaret. Je trouve que l'histoire de France a des aspects symboliques extrêmement forts et qui en font tout la force de fascination qu'elle exerce sur tous les esprits, même sur les petits-enfants d'Espagnols et de Siciliens, comme c'est mon cas. Et qui fait de nous de bons Français, parce qu'on regarde tout ça chacun à notre manière. Parce qu'il n'y a pas une histoire, celle que je suis en train de vous raconter, c'est une histoire politique, hein. C'est pas une histoire scientifique. Donc, l'édit de Nantes a été révoqué, et on va commencer à embastiller, à mettre en prison toutes sortes de gens. Il se trouve que, je prends l'exemple des pays de Languedoc, parce que par là-bas, on va, pour finir de les réduire, cette période aura deux conséquences. Une dans le Languedoc que je vais vous raconter, et puis, oh là là, il faut que je fasse attention là, parce que je parle depuis combien de temps? Un moment là, hein? Oh là là. Oui, il faut que j'accélère. On fait une prison pour femmes, et les malheureuses qui auront été ramassées resteront là pour certaines plus de 40 ans en prison. Et on a, dans le château où elles étaient enfermées, un endroit où une femme, Marie Durand, a écrit sur la pierre une phrase qui claque comme un symbole, hein, c'est « résister ». C'est le seul mot qu'elle a écrit. Elle n'a pas écrit « Dieu est ma foi » ou je sais pas quoi, « résister ». C'est-à-dire que, au-delà même de la foi en Dieu, sur laquelle je ne m'exprime pas, il y a quelque chose de plus fort, c'est ma liberté de conscience. Ce que je crois intimement, je ne céderai pas. Par conséquent, il n'existe pas d'autre solution que l'extermination pour régler le problème de la diversité de la foi si on a l'intention de le régler sous la bannière de la foi. Voilà. Il n'y a pas d'alternative. Parce qu'on ne peut pas discuter le dogme. Le dogme relève de la vérité révélée. Et donc, ce mot magnifique va nous créer un petit entreaperçu, c'est qu'il y a un homme qui va défendre à fond ces femmes, c'est pas Voltaire, c'est Rabaut Saint-Étienne, qui est un avocat du coin, et ce Rabaut Saint-Étienne va être leur défenseur jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il obtienne la libération de ces malheureuses. Et cet homme a un fils, qui lui-même aussi est un avocat, et dans les tableaux que vous voyez du serment du jeu de paume, qui est le moment où on a franchi toutes ces étapes, et on déclare un nouveau souverain qui n'est investi par personne, qui est le peuple lui-même. L'acte de naissance de la souveraineté populaire, qui est dans le serment du jeu de paume, vous avez le plus souvent sur le tableau de David ou sur les sculptures, vous voyez au premier plan trois personnes qui se tiennent. L'un est visiblement un pasteur protestant, on voit ça, les deux collerettes de son col. L'autre est visiblement un religieux catholique, je crois que c'est un moine, il a une robe blanche. Et vous voyez un troisième personnage qui est en tenue civile. Eh bien, celui-ci, c'est le fils Rabaut Saint-Étienne. Donc, dans ce moment, ceux qui ont fait cette composition, peut-être y étaient-ils, ont voulu montrer cette filiation qu'il y a entre le processus révolutionnaire qui va maintenant dire et trancher la question, qui commande le peuple? Et au nom de quoi? de l'intérêt général. Tout d'un coup, c'est une révolution intellectuelle. On gouverne au nom du peuple, par le peuple, et sous l'empire d'un objectif, l'intérêt général. Là, il faut commencer de nouvelles difficultés. Mais c'est ce moment, c'est un avènement. Évidemment, il ne surgit pas du néant. Il a été le résultat d'un long travail. Mais vous voyez que cette laïcité, c'est-à-dire séparation de l'Église et de l'État, est un long processus historique. Ce n'est pas, encore une fois, ni un complot, ni une chose qui a été décrétée dans une assemblée savante. Ça a été la réponse à un problème concret. Comment gère-t-on un très grand pays, très peuplé, avec des gens qui ont des convictions religieuses différentes? Quelle est la base de l'autorité qui les rassemblera tous? Là, la réponse, la base, c'est vous-même. À une condition, c'est que vous ne veniez pas délibérer sous l'empire de la vérité révélée. Et ça, c'est le principe politique laïque. Séparation des églises et de l'État. La séparation, ce n'est pas la neutralité. C'est l'État ne reconnaît et ne salarie aucun culte, ne les reconnaît pas. L'État est indifférent à la religion. Ça ne veut pas dire qu'il les traite toutes de la même manière. Non, il n'en traite aucune. La foi est l'affaire des croyants. L'État ne s'en mêle pas d'aucune façon. Peut-être que ça donnera lieu à discussion entre nous, parce qu'il y en a qui pensent que la laïcité, c'est la neutralité. Erreur. Ou c'est un égal traitement. Autre erreur. La sphère publique vous voit arriver. Pour que vous soyez de bons citoyens, il faut que vous puissiez venir délibérer tous ensemble avec comme objectif de dire ce qui est bon. Pas pour vous seulement, mais pour tous. Parce que pour vous, vous seriez l'homme, la femme de vos humus personnels, de votre condition sociale, de votre préconditionnement. Et on vous demande d'être le roi. C'est-à-dire de raisonner pour tous, pas seulement de votre point de vue à vous. C'est pourquoi le sujet devient roi quand il devient citoyen. Et pour qu'il soit citoyen, il faut qu'il délibère avec pour objectif l'intérêt général et sous l'empire de l'intérêt général. C'est pourquoi la démocratie et la République, ce n'est pas tout à fait la même chose. La démocratie, c'est le mode opératoire. Nous délibérons, nous votons. Et la République, c'est nous délibérons et nous votons, ayant en vue l'intérêt général. Ce qui est bon pour tous. Grosse différence, c'est pourquoi la République n'a jamais été un régime neutre. La démocratie, oui, ça peut être neutre. Vous pouvez avoir une royauté constitutionnelle, un duché démocratique ou ce que vous voulez, oui. Parce que, chacun dit ce qui lui paraît bon, déjà pour lui, hein. Quand il est très altruiste pour les autres aussi. Mais la République présuppose que nous sommes tous semblables. Alors, mes chers concitoyens, pardon, je vous parle encore de... Le mot semblable a une grande importance dans l'histoire des mots et des idées. Autrefois, on disait autrui. Il faut parler des autres. Dans le vocabulaire religieux, on parle d'autrui. D'ailleurs, au sens commun, aujourd'hui, ça s'utilise. Mais à l'époque, ça avait un sens religieux. La première fois que le mot semblable apparaît dans un document officiel, c'est quand un officier de cavalerie, en vacances, à Champagné, dans la Haute-Saône, fait une réunion sur le parvis de l'église et dit aux bonnes gens qui sont là qu'on est en train de commettre une horreur qui consiste à traiter les hommes comme des marchandises, ce sont des Noirs, et qu'on les esclavagise. Mais les gens du coin, n'ayant jamais entendu parler de Noirs, et à plus forte raison de n'ayant jamais vu, se demandent de quoi ils parlent, de qui ils parlent, quelle sorte de gens. Et donc cet officier les emmène et leur montre sur la peinture qui représente la crèche, Balthazar, qui est Noir. Il lui dit, c'est ça, un Noir, c'est comme ça. Ah oui, alors, si en plus il était à la crèche, pas de problème. Tout le monde est tout à fait furieux et signe sa pétition. Et cette pétition est affichée aujourd'hui, où il dit que tous les hommes, tous les êtres humains sont créatures de Dieu et que les uns sont les semblables des autres. C'est une idée révolutionnaire, parce qu'elle postule qu'il y a un intérêt général humain. Voilà, quand la grande révolution éclate, elle fait tout le travail. Elle a jeté toutes les bases de tout, y compris la séparation de l'Église et de l'État. Parce que ça, on le dit peu. Mais la constitution civile du clergé vise à retirer à la papauté l'autorité sur le clergé de France. Alors ce sont, peut-être vous en avez entendu parler, ce sont les prêtres assermentés, ils doivent jurer fidélité à la République. Ça déjà, mais il y a quelque chose qui est encore plus dérangeant, dont on parle moins, parce qu'on dit « Ah, on peut avoir deux allégeances ». Mais je crois que ce n'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est que la constitution civile du clergé prévoit que les évêques sont élus par les croyants. Alors ça, comme l'a dit le pape lui-même, c'est pas la société religieuse est par essence inégalitaire. Et donc le pouvoir procède de Dieu et le troupeau doit suivre, comme il est dit dans la phrase, la multitude, son devoir est de suivre ses pasteurs. Donc ça colle pas du tout. Faire des élections d'évêques, ça fait une raison supplémentaire pour l'autorité pontificale de penser que tout ça va lui échapper, non pas tort d'ailleurs. Et le même, un décret qui lui est fait faut que je le retrouve, parce que sinon, si je vous dis une bêtise, après ça va vous donner prétexte à débordement. 1790, c'est la constitution civile du clergé. 1795, décret du 3 Ventôse, qui sépare l'Église et l'État. Déjà, nous sommes en 1795, qui dit que la République ne reconnaît et ne salarie aucun culte. Elle commence par dire « Aucune célébration religieuse ne peut être perturbée ». Mais deuxièmement, l'État ne reconnaît aucun culte. Et troisièmement, il est interdit de procéder à des manifestations religieuses en dehors des lieux de culte. Retenez ça, c'est très important. Il faut que j'aille à ma conclusion. Mais quand même, il faut retenir à mesure un ou deux points de passage du raisonnement. Comme vous le savez, c'est une forme de la... On essaye de trouver un arrangement entre les deux autorités. Cette fois-ci, on va essayer d'introduire dans le religieux des normes du civil, l'élection. Ça colle pas. On a essayé avant l'extermination. Ça colle pas non plus. L'Empire va trouver un moyen terme qui s'appelle le concordat. C'est-à-dire, on s'entend. On recommence le pacte de Clovis, mais sous une autre formule. Les évêques sont nommés d'un commun accord entre le pape et les autorités françaises, sur une liste. Ça continue, je vous signale aujourd'hui, hein, le ministre de l'Intérieur, pour chaque nomination d'évêque, il y a trois noms. Bon, alors maintenant, on nomme qui ils veulent, hein, mais on pourrait très bien en nommer un autre. Attendez que ce soit moi le ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas fini d'avoir des surprises. Bon, mais en tout cas, c'est un pouvoir, bon, c'est comme ça. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur n'a rien à faire dans cette histoire, et que c'est pas à lui de désigner quelle est la personne adaptée à l'exercice du culte. Ça n'est pas du tout son travail, et naturellement, je plaisantais, vous l'avez compris. Mais en attendant, ça continue à être comme ça. L'Empire, lui, va... Bon, c'est le concordat. On s'accorde, hein, on paye les prêtres, en foi de quoi, ils jurent tous fidélité à la Respublica. Pourtant, nous sommes sous l'Empire, mais c'est à la Respublica, et on va faire une prière à la fin de chaque célébration religieuse pour la République française, normalement. Hein. Je ne sais pas si en Alsace-Lorraine, ils font la prière pour la République, mais en tout cas, c'était prévu à ce moment-là. Dans les synagogues, on prie pour la République française, mais personne n'a rien demandé. Ils le font parce qu'ils ont, un élan qui les y porte, parce que la République a été celle qui a... libérer les Juifs de France en leur reconnaissant le statut de citoyen comme tous les autres. Et c'était une révolution. Aujourd'hui, on ne se rend plus compte de l'importance de choses pareilles. Un pouvoir complètement séparé du religieux. Les communautés protestantes et juives en France ont toujours été la pointe avancée de la bataille laïque. C'est toujours eux qui ont, dans le passé, porté sur leur dos, parce que c'était eux les principales victimes, les religions minoritaires. Voilà. Donc après... L'enchaînement des histoires et des idées jusqu'à 1905, vous le connaissez. En tout cas, ce que je vais le résumer de la manière suivante. Ça n'a pas été quelque chose de calme. Et pas du fait de la République, mais du fait des papes qui n'ont cessé de harceler le régime républicain et d'appeler à la désobéissance. Là, je ne vais pas vous faire les extraits, la lecture des extraits qui sont contenus dans mon petit bouquin, mais vous serez saisis quand vous lirez quel était le ton sur lequel on s'adressait à la République. En commençant par contester quoi ? Le suffrage universel, parce que c'est ça le point de départ. Au nom de quoi pensez-vous que vous allez établir une règle d'après vous-même, alors que la règle ne peut venir que de Dieu ? Et ne croyez pas que ce que je suis en train de dire là soit une idée maintenant datée, passée, appartenant au Moyen-Âge, ou même avant la loi de 1905. Ceci a été rappelé dans les termes dans lesquels je m'exprime par le pape Jean-Paul II, qui dit qu'au bout du compte, il ne peut pas y avoir de loi légitime qui ne soit conforme à la loi naturelle, c'est-à-dire, en fin de compte, à la loi de Dieu. Ça, je suis en train de vous le réciter, hein, croyez pas que j'invente. Hein. Donc, c'est ça, les termes du problème, du rapport entre le caractère dogmatique de la foi et le caractère civil, de la société, c'est cette tension, elle continue. Tu as le droit de t'en aller, Simone, parce que moi-même, j'en ferai autant si c'était possible. Bon, merci en tout cas. Bah, t'inquiète pas, hein, j'arrive à ma conclusion. Là, on a donc cette tension. On voit comment elle se dénoue en 1905. Quand vous parlez de 1905 et que nous, les laïcs, nous faisons traiter de laïcards, de sectaires, de violents, de diviseurs, je vous invite tous à lire l'encyclique Vehementer Nos, 1906, dans lequel le pape s'adresse à la République française. Et vous verrez que, honnêtement, le sens de la mesure est pas bien partagé dans cette affaire, puisque c'est une série d'injures, plus la déploration du fait que la République a décidé d'interdire la manifestation dans l'espace public de la pratique religieuse. Cette question va être le point par lequel reviennent les questions actuelles. Je laisse la loi de 1905 à l'instant où je l'ai fixée. Nous sommes à Vehementer Nos 1906. Le pape appelle les Français à la désobéissance. Parce que la loi de 1905 organise, pas le culte catholique, la relation de la République française avec le culte catholique et demande aux catholiques de constituer des associations avec lesquelles, dans le cadre de la liberté d'association, va pouvoir traiter le pouvoir politique, notamment pour confier à ces associations la gestion de bâtiments religieux qui appartiennent à la nation. Et oui, il faut quand même s'en rappeler, hein. Tout ce qui est après 1905 est propriété privée des églises en France, tout ce qui est avant appartient à la nation. Tout, Notre-Dame inclus, hein. Cathédrale, église, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est entretenu par les collectivités locales. Parce que c'est un bien commun. Donc ce qui est à discuter, c'est pas qu'on l'entretienne. Éventuellement, c'est le mode sur lequel on l'affecte. Mais je dis ça parce que souvent, des amis très laïcs m'ont dit « Mais n'avons pas à réparer le toit de l'église ?» Ben, bien sûr que si. C'est une propriété commune du peuple français. Bon, je vous donne cet exemple parce qu'après, ça va un peu plus loin. Il y a les peintures, les orgues, et puis on ne sait pas où ça s'arrête des fois, mais enfin bon. N'empêche que ne nous trompons pas d'analyse. C'est l'affectation qui peut être discutée, pas l'entretien, puisque c'est bien commun. Donc la loi de 1905 se termine par des déclarations furibardes du pape qui dit « on n'obéira pas, on n'a pas à constituer des associations et on n'a pas à discuter ». Donc c'est un appel à la désobéissance à la loi. Évidemment, en 1906 et les années suivantes, les Français avaient d'autres sujets, n'étaient pas forcément disponibles pour aller se battre. La République a commis, les gouvernements, quelques erreurs dans le maniement de l'inventaire, en particulier lorsque, pour faire l'inventaire, on a prétendu aller regarder les ciboires qui se trouvaient dans les tabernacles, et quel tabernacle étant censé être un lieu sacré, un certain nombre de croyants, attisés par des prêtres fanatisés, se sont mis à se barricader dans les églises, à allumer des incendies autour pour empêcher la troupe d'entrer. Mais nos pères républicains, eux, n'ont jamais désarmé, c'est-à-dire rien ne leur a fait peur. Donc, quand il a fallu, ils sont entrés de vive force pour que force reste à la loi. Parce que la loi est délibérée par tous. Ce n'est pas forcément ce qu'on avait fait de plus habile. D'ailleurs, on a arrêté de le faire, ce qui fait que ça a fait tomber la pression. Tout le monde avait envie d'ailleurs d'en arrêter. Personne n'avait envie de se battre pour ça. Mais je veux rappeler que lorsque on a décidé de le monopole de la collation des grades par l'université, système public, il y a eu une pétition nationale où 75 départements de France sur 90 ont signé la pétition. Et plus de 1 million de personnes l'ont signé. Ça n'a pas arrêté la République. Vous mesurez l'énorme reculade que représente la décision de M. Kouchner de faire reconnaître les diplômes qui sont dispensés par les religieux. C'est une régression absolument inouïe. C'est ça qui m'amène à l'actualité. J'ai parlé des manifestations publiques du culte. Un nouveau concept a été inventé dont le président de la République a la fatuité de croire que c'est lui qui l'a trouvé. Ça s'appelle la laïcité positive. Alors, et vous voyez l'astuce, ça commence bien. Si elle est positive, c'est donc qu'il y en a une négative. C'est une bataille de mots, c'est une bataille d'idées. Alors, en quoi la laïcité positive se distinguerait-elle de l'autre? D'abord, c'est quoi l'autre? Eh bien, le pape l'a dit. C'est un laïcisme dont il dit que c'est une dégénérescence de la laïcité. Le voilà convaincu de laïcité. Mais c'est lui qui fixe les règles. Et la laïcité positive, c'est une laïcité qui commence d'abord par reconnaître dans la société la place de l'Église. Pour nous, Français, républicain français, c'est une idée qui, normalement, devrait nous faire hurler d'horreur, en disant « Non, non, c'est bon, on connaît ça déjà, ça va, on a déjà cotisé, nous, pour ça. » On veut pas. On a trouvé un système qui marche, qui respecte la liberté de conscience de chacun, et qui est la condition d'existence de notre République, la liberté de conscience. Pourtant, c'est très exactement ce que je vous dis, à force d'avoir manié le texte, hein, une citation du pape, qui dit « L'homme est un animal social, il dit pas animal, lui, une créature sociale, dans tous les aspects de sa personnalité, et donc aussi dans son appétence naturelle, irrépressible, à la religiosité et à la transcendance. Nous sommes des êtres sociaux en tout point, dans nos goûts littéraires, musicaux, culinaires, sociaux, civils. Donc, il y a une dimension que vous ne pouvez pas nier, dit le pape, c'est la dimension religieuse. Et si vous la reconnaissez, elle a donc sa place officiellement dans la société. Déjà, premièrement, vous devez reconnaître les églises. Quel contraire de la loi de 1905. Reconnaître les églises, c'est ce que fait l'Europe. Je mixe deux questions conjointes. Dans la Charte des droits fondamentaux, il est dit que les institutions européennes entretiennent un dialogue régulier et transparent avec les églises. Ça veut donc dire qu'elles les reconnaissent. Nous, en principe, non. Hein. Mais en Europe, oui. Je parle de l'Union européenne, hein, l'institution Union européenne. Ce n'est pas vraiment étonnant. L'influence de la démocratie chrétienne sur la construction européenne est gigantesque. Je mets ça hors des autres questions, des autres débats qu'on peut avoir sur l'Europe. Et le pape demande donc pour la laïcité positive la reconnaissance de la pratique du culte, ce qui n'est mis en question par personne, dans l'espace privé et public. Donc la possibilité, alors vous vous demandez de quoi il parle. Évidemment, nous en France, on dit, mais de quoi il parle? Il parle de ce que ses prédécesseurs dénonçaient. Dans Vehement Ternos, ce qu'on dénonce, c'est le fait que dorénavant, on ne fait plus la prière à l'ouverture des sessions parlementaires. Le pape dénonce le fait qu'on ne célèbre plus le Vendredi Saint dans la Marine Nationale. Il dénonce le fait qu'on ait enlevé le symbole de l'origine de toute justice, qui est le Christ en croix dans les tribunaux. Tout ça, c'est dans Vehement Ternos. Hein. Donc vous voyez, c'est pas une affaire simplement de mécréants opposés à des croyants. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on gère notre vie commune. Comment on vit ensemble. Alors, cette laïcité positive, c'est celle à laquelle a adhéré le président de la République dans son discours de Latran. Il se dit, moi, nous, voilà ma conception, la religion est un atout pour la société. C'est sa manière de voir. Et il met en avant ce que la foi donne de courage et d'altruisme aux gens qui ont la foi. Mais d'abord, c'est une utilisation personnelle qui fait de la foi des autres et des mérites qui ne sont pas les siens. Parce que on le voit, par exemple, dénoncer une obsession des biens matériels. Enfin, on n'a pas eu l'impression qu'il en soit si détaché que ça. Hein bon. Et il s'est lancé dans des prêches grotesques, notamment en Arabie Saoudite, où certainement le roi, qui est aussi le commandeur des croyants, a dû trouver assez étrange ce genre de délire, où il explique d'abord que Dieu est la source de toute vie, de toute origine, et même, ce point a son importance malgré son caractère ridicule. Il dit que c'est par Dieu que nous sommes réellement humains. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons vraiment en commun tous, c'est que nous sommes aptes à croire en Dieu. C'est donc seulement dans la foi en Dieu que nous réalisons totalement notre humanité. Il a dit ça à Riyad. Après ça, il a dit, mais finalement, le Dieu que nous honorons, c'est bien le même. Je ne sais pas ce que l'autre en a pensé, mais ça m'étonnerait qu'il ait été d'accord avec ça. Ça m'étonnerait. Ben oui, parce que par définition, le syncrétisme, c'est une vision mécréante. Hein. La vision religieuse, c'est l'application de la vérité révélée, point barre, il n'y a pas à discuter. Bon. Ça m'étonnerait que le roi d'Arabie Saoudite soit d'accord pour chercher un point de concordance entre ce qu'affirme le Coran et ce qu'affirment les évangiles. Je ne crois pas que ça soit son sujet. Hein. Il a son idée bien arrêtée sur la question et elle n'est pas négociable. Donc c'est pour vous dire que quand je dis le président de la République s'est rallié à cette vision, c'est pas anecdotiquement au détour d'une phrase ou d'une des mauvaises plaisanteries dont il a le goût. C'est à l'occasion d'une circonstance exceptionnelle. Il va à Latran pour être intronisé comme chanoine de Latran, dignité ecclésiastique qui est confiée de manière assez folklorique à la France en raison de ses liens spéciaux, dont le président de la République se réclame. Il l'a fait dans le discours de Latran, et c'est à cette occasion qu'il prêche pour la laïcité positive, qui signifie donc la reconnaissance de la place de la religion dans la société, et deuxièmement, l'autorisation de son expression du culte public. Voilà. Cette question-là, je ne vais prendre que celle-là. Que celle-là. Parce que c'est celle qui est aujourd'hui l'enjeu. Pourquoi ça? Il y a deux raisons. La première va être juridique. La seconde est juridique. Je prends la première, la plus importante, elle est politique. Depuis la fin de la confrontation entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, la fin du monde bipolaire, du monde de Yalta, les États-Unis d'Amérique ont cherché des motifs de fédération autour d'eux. Pourquoi? Pour légitimer leur propre pouvoir. Parce que le problème numéro un d'un pouvoir, c'est d'être légitime. Même quand vous avez le gros bâton, il faut que le gros bâton donne l'impression d'être au service de tous. Sinon, bah, tous les autres, y compris ceux qui en, pas seulement ceux qui en reçoivent, hein, sont pas d'accord. Donc, leur motif de cohésion a été « nous sommes l'Occident ». Alors, des fois, avec des Occidentaux assez étranges, hein, parce que, bon, quand vous avez des Japonais dedans ou des Égyptiens, une chose dans l'autre, c'est des Occidentaux discutables. Hein. Mais, dans les définitions qui en sont données, ils sont inclus. Et c'est la théorie de Samuel Huntington qui a servi de matrice à toutes sortes de discours. C'est la théorie du choc des civilisations, qui est présentée comme toujours d'une manière hypocrite. On dit « il y a des civilisations, toute civilisation repose in fine sur une religion, et elles sont les unes en face des autres, la plus dangereuse étant l'islam, qui par définition est violent ». Ça, c'est Samuel Huntington qui parle, je vous le rappelle, c'est pas moi. Hein. Et alors Huntington dit « c'est comme ça ». Bon, contre toute vérité scientifique, il y a une porosité complète entre les civilisations, elles ne sont pas aussi délimitées qu'il le dit, elles s'interpénètrent. Et quant à ces démonstrations sur l'islam, elles pâtissent du fait que pour l'instant, la première puissance militaire qui fait la guerre à tout le monde, elle n'est pas islamique, elle est bonne chrétienne, c'est celle des États-Unis d'Amérique qui ont 80% des dépenses militaires du monde avec leurs alliés. Donc la démonstration n'est pas très bonne. Hein. Mais c'est posé comme un fait. Et aussitôt, Huntington, de façon très hypocrite, dit « il nous faut tout faire pour éviter le choc des civilisations ». Au passage, vous allez tous dire « oui ». Il faut tout faire pour éviter le choc des civilisations, mais dès que vous dites ça, vous avez avalé le choc des civilisations en même temps. Et vous avez des gens qui sont préposés à cette hypocrisie, c'est par exemple le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, qui, par la voix de son Premier ministre, organise tous les ans une grande conférence contre le choc des civilisations. Voilà. Mais il a de pitoyables congénères ailleurs, je vais les évoquer maintenant. C'est la théorie du choc des civilisations qui nécessite que son carburant lui soit donné. Il faut donc que les sociétés occidentales s'alignent sur un contenu religieux. Et c'est ce qu'a fait M. Sarkozy, dont je ne veux pas douter des convictions religieuses et de leur profondeur, mais on a eu aussi souvent l'impression qu'il utilisait la doctrine catholique comme un instrument politique. Hein. D'ailleurs, il ne s'en cache même pas, il dit « ah, ben c'est bien, là où il y a des prêtres, il y a moins de bandits, il y a moins de voyous », bon, ce qui reste à démontrer, mais il le dit. Et c'est une vision de la religion, une vision utilitariste de la religion que les gens qui ont la foi ne sont pas d'accord pour partager, ne sont pas d'accord avec un discours pareil. On pourrait même citer d'éminents prêches de Fontenelle, je crois, peut-être que je dis une bêtise, mais qui dit que ceux qui prétendent faire de la religion un outil social ne sont pas croyants, hein, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'il faut lire cette attitude, et qui correspond à un modèle économique, qui correspond à un modèle social, tout ça se tient. C'est pas le sujet d'une université populaire, ça sera un meeting politique, mais je suis obligé de mentionner cette cohésion hein, doctrinale. Ces choses-là ne sont jamais en vain. De même qu'on n'était pas cathares par hasard à l'époque où on pouvait l'être, de la même manière, on n'est pas pour le choc des civilisations, parce que tout d'un coup, on se réveille un matin, certain d'être d'une civilisation et de pas supporter son voisin quand on serait d'une autre. Il y a des raisons politiques qui sont à l'œuvre. Maintenant, voyons l'aspect de l'alignement général. Bah, il a lieu notamment en Europe. Vous savez que nous avons fait l'Europe d'abord contre la guerre, avec un objectif de paix. Il est assez frappant, j'ai dit mon indignation, que le 11 novembre 1918, il n'y ait aucune espèce de célébration de l'armistice, parce que ce n'est pas une affaire de Français, ce n'est pas une affaire de Français et d'Allemands. Tout le monde était en guerre, c'est une guerre mondiale, je me permets de le rappeler, dont l'origine est en Europe, les deux fois. Hein. Les deux guerres mondiales, leur origine est en Europe, et les deux fois, leur origine est dans un conflit entre Français et Allemands. On pouvait donc imaginer que le jour où se célébrait l'armistice, il y avait mieux à faire que de célébrer avec plus de 20 jours de retard l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, cérémonie qui n'en finit pas et dont la mièvrerie exaspérante aura été, je pense, assez soulignée par les gesticulations de ceux qui s'y sont livrés. Mais en attendant, en Europe aussi, on s'est à nouveau tapé une présentation de débris du mur qui ont été mis devant le Parlement et de discours ineptes sur le sujet, alors que, bon, nous avons fait l'Europe pour la paix, pour dire « ah bah la guerre, plus jamais la guerre, vive la paix. Bon, c'est clair, le message, tout le monde l'a compris, c'est plus jamais le socialisme, vive le marché. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'en ai tirée. Comment, un jour pareil, on pouvait ne pas parler de paix et ne pas parler, qui transcende les questions d'ordre, je dirais, politique au sens idéologique du terme, hein, bon, on n'en a pas parlé. Donc, en Europe, quelle est la situation actuelle? Vous avez entendu parler, c'est là-dessus que ça va finir, c'est comme ça je lance la balle, vous avez entendu parler des réjouissances d'un certain nombre de gens en Italie qui ont obtenu de la Cour européenne des droits de l'homme que soit condamné le fait qu'il y ait des crucifix dans les écoles. Alors beaucoup d'entre vous ont dû se dire, ah ah, c'est pas ce que nous avait dit Mélenchon. Il nous avait dit qu'on n'était pas à l'abri. Alors, d'abord deux choses. Premièrement, il faut observer les réactions. Berlusconi, qui est un croyant pratiquant, comme vous le savez, qui respecte la morale, c'est la proximité du Vatican, lui permet d'avoir une vision plus profonde sur les relations humaines, et il les met en pratique. Donc lui, il a déclaré que la croix était un emblème d'État qui correspondait à l'Italie. Voilà, point barre, fermez le banc. Une réaction typiquement berlusconienne. Il est tout de même assez affligeant que le président du Parti démocrate italien se soit senti obligé de dire que c'était une décision pour le moins discutable. On attendait de lui quand même un autre commentaire que celui-là. Peut-être dire, ben, c'est une bonne idée, essayons de nous comporter comme des gens civilisés et ne mettons pas dans les écoles des symboles religieux, puisque apparemment certains de nos concitoyens n'en veulent pas. Mais cette Cour qui a pris cette décision ne dépend pas de l'Union européenne. C'est celle qui dépend du Conseil de l'Europe, qui est une autre organisation qui regroupe d'autres pays, tous les pays de l'Union européenne, plus d'autres, dont notamment la Turquie et la Russie. Et c'est cette instance-là qui a dit « Vous ne pouvez pas mettre des crucifix dans les écoles au nom de la liberté d'éducation des parents à l'égard de leurs enfants dans les convictions qu'ils estiment justes et que vous n'avez pas à fixer. » C'est ça le principe de laïcité, hein. C'est la liberté de conscience. Et nous préparons la jeune conscience à délibérer d'après elle-même, y compris dans son adhésion ou non à la foi, ou à telle ou telle forme de la foi. D'accord ? C'est le cas tout à fait différent qui se présente à propos de l'Union européenne. Il y a un instant, quand j'ai dit qu'il y avait une reconnaissance des Églises au niveau européen, j'ai vu dans notre public quelques sourcils se lever. Alors, il faut que je trouve ma citation, c'est toujours là, voilà. Voilà, ça c'est à l'Europe que ça se passe. Il y a le premier programme européen de soutien aux religions a été l'œuvre de Monsieur Jacques Delors, qui a créé un programme qui subventionnait la possibilité pour les églises de faire bénéficier de leur influence et de leur lumière les gens qui ont elles délibéré. Par exemple, alors cette ligne de budget provoquant du scandale a été éclatée entre plusieurs lignes, on a du mal à la retrouver, mais elle existe. Et c'est ainsi, par exemple, que les religieux se réunissent avant chaque conseil de gouvernement, bon, ils ont bien le droit, hein, pour faire leurs propositions. On pourrait dire, oui, mais quelles conséquences ça a sur le quotidien? Ben, il y en a une, et je voudrais signaler à ceux de mes compatriotes qui croient que j'exagère. Alors, le traité de Lisbonne, c'est article 16C, traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est la partie fonctionnement. Article 16C. Accorde une place d'exception aux églises en, citation, reconnaissant leur identité et contribution spécifique. Et prévoit, l'Union maintient un dialogue transparent et régulier avec les églises. Alors, est-ce que tout ça, c'est du détail? Non, ça n'en est pas. À preuve, cette citation que je vous fais, j'en aurai d'autres, hein, s'il y en a besoin, Monsieur César Danévès, qui a été nommé par Monsieur Barroso, comme responsable des relations avec les religions, à la Commission européenne. Il déclare « Les églises ne se servent pas de ce dialogue pour défendre leurs seuls intérêts. » Ce qu'à la limite, moi, je serais prêt à admettre, en tant qu'institution. « Mais pour influencer la législation et imprimer les décisions européennes de leurs valeurs. Les religions ne se cantonnent pas à la sphère privée, mais sont des entités spéciales dans l'espace public où elles ont un rôle à jouer. » Le dernier morceau de la phrase est un copier-coller de l'encyclique du pape. Ce que je viens de vous lire, ce n'est pas la déclaration d'un passant dans la rue, ni d'un de ces nombreux députés égarés qui font régulièrement en public des prières pour que nous bénéficions de l'influence de la Vierge Marie, ce qui m'est déjà quand même arrivé 3 fois depuis que j'y suis, dans ce Parlement, mais de quelqu'un qui est officiellement nommé par M. Barroso pour s'occuper des relations avec les religions. Il dit elles ne sont pas là pour s'occuper, je sais pas quoi, moi, des lieux de culte, de leur liberté, etc., ce qu'on pourrait comprendre. Elles sont là pour influencer, du point de vue des valeurs qui sont les leurs, les lois. Bon, c'est ce avec quoi nous, en principe, les Français et les Républicains, nous sommes absolument et totalement hostiles. Alors, il se trouve que dans le statut européen et dans la déclaration, on retrouve, mot pour mot, la même définition que celle de la Déclaration européenne des droits de l'homme, qui relève du Conseil de l'Europe, la même définition de la place du religieux. C'est-à-dire qu'il est dit que la religion est pratiquée librement, comme on l'entend, sauf trouble à l'ordre public. D'accord ? Comme en France. Le trouble à l'ordre public, ça veut dire qu'il y a une limite à l'exercice et à la pratique de la religion. C'est qu'il ne faut pas, il y a donc une limite, une restriction. Or, ce bout de phrase est retiré du texte actuel européen, celui qui est dans le traité de Lisbonne. Et de toute façon, s'il y avait une restriction à l'exercice de cette liberté, elle ne pourrait se faire qu'au nom des valeurs professées par l'Union européenne. Or, la laïcité n'est pas une valeur de l'Union européenne. N'est pas une valeur. N'écrit nulle part que les églises sont séparées des institutions étatiques. Et pour cause, puisque dans un nombre important d'États, cela n'est pas fait. Par conséquent, l'objet juridique qui s'appelle Union européenne n'est pas une institution laïque. Et vous verrez qu'il y aura, il peut y avoir un autre jugement sur cette affaire italienne, qui ne relèvera plus cette fois-ci du Conseil de l'Europe, mais de l'Union européenne, et que la délibération pourrait être inverse. Pourrait, je ne dis pas que ça va se faire, moi je ne le souhaite pas, hein. Mais elle pourrait être inverse. Et c'est le problème que j'ai soulevé depuis le début. Que se passe-t-il, indépendamment de toute autre question, si ces deux cours rendent un avis différent sur le même sujet, au nom de la même déclaration des droits? Vous voyez? Donc il y a un moment où ce n'est plus une affaire de religion, c'est une affaire d'espace public et de pouvoir politique. Qui commande? Est-ce qu'il y a une vérité supérieure à celle que professent les citoyens du point de vue de leur libre délibération? C'est ça la question. Est-ce que la souveraineté populaire est pleine, entière, totale, en tout lieu? En tout lieu, ça on sait que c'est pas vrai, notamment dans l'entreprise. Mais est-ce que dans l'espace public et dans l'organisation de la société, la souveraineté populaire est une et indivisible, ou bien est-ce qu'il y a des espaces dans lesquels elle n'intervient pas? Puisque dans ces espaces, elle reconnaît des droits particuliers à des catégories particulières de citoyens qui peuvent s'imposer à eux et aux autres, car la manifestation dans l'espace public de la pratique du culte et des rites, c'est imposée aux autres, à ceux qui n'y croient pas ou à ceux qui ne sont pas de cette religion-là. Vous voyez, quand je parle, est-ce que la loi, est-ce que la souveraineté est totale? On pourrait me répondre, elle est totale quand le peuple tout entier décide que telle pratique est possible. Mais on ne peut décider dans le bien de tous que de pratiques qui sont acceptables par tous, du point de vue de l'intérêt général. Or, il n'y a pas d'intérêt général à ce que des crucifix soient mis dans des salles de classe, des tribunaux ou des navires de guerre, sauf pour ceux qui croient que la présence de Dieu manifestée à travers ces symboles concourt au bien-être général. Mais ça, c'est une vue parmi d'autres, pas la mienne en tout cas, par exemple. Hein. Bon. Et vous ne savez pas si je suis croyant ou pas, ce que je ne vous dirai jamais, puisque je suis élu du peuple français, et que j'estime qu'un élu n'a pas à faire état de ses convictions religieuses, pas plus d'ailleurs que de sa vie privée, ou de quoi que ce soit, toute chose qui ne concerne pas l'espace public, il ne l'a pas élu pour ça. On n'élit pas quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, de sa religion en principe. Mais en tout cas, en principe, c'est censé être en fonction de ses idées politiques. Voilà. C'est pour vous dire que la question de la laïcité, que j'ai commencé à vous tricoter avec Clovis, ce n'est que la question du pouvoir politique et de la souveraineté du peuple. Qui est acteur de l'histoire? Le peuple? Dieu, le roi, quel roi, quel dieu, toutes ces questions ont été disputées. Tandis que quel peuple, ça se discute moins, parce que c'est très simple à régler. Il suffit de dire tous ceux qui quoi, tous ceux qui sont nés sur la terre de France. Ça date de François Ier, c'est le droit du sol. Né en France, français. Touche la terre de France, libre. Sauf dans les dom-tom. On comprend pourquoi. Mais qui touche la terre de France est libre. C'est ça les règles. Elles n'ont pas été inventées par des jacobins. Elles ont été inventées pour répondre à des problèmes concrets. Le roi de France avait besoin d'unifier ses sujets parce qu'il avait à faire face à une situation inouïe. Devinez laquelle ? Toute l'Europe était d'accord, sauf lui. C'est-à-dire que les Habsbourg faisaient le tour. Ils avaient tout le nord, là, comme ça, les Flandres, machin, l'Allemagne, l'Autriche, tout ça, là-bas, par là-bas derrière. La Hollande, ça continuait, l'Italie. Ils avaient été délogés avec des méthodes qui n'étaient pas très religieuses. Le pape, ça c'est Charles Quint qui a fait ça. Et puis ça continue en Espagne, et puis ça allait dans le Nouveau Monde. Et il y avait le royaume des Français qui était là au milieu et pas d'accord. Et qui a fait à l'époque une horreur, une alliance de revers avec le sultan turc. C'est vous dire qu'il y a bien des histoires qui ont une longue histoire. Hein. Et que la technique des Français, souvent, alors là c'est le royaume, hein, mais ça a souvent été les alliances de revers, souvent, premièrement. Deuxièmement, jusqu'à présent, l'argument d'après lequel tout le monde est d'accord sauf nous n'intimidait pas les Français. Ils pensaient que ce qu'ils avaient à dire intéressait tout le monde et que d'ailleurs ils le disaient. La République elle-même, personne n'était d'accord. Je le mentionne, hein, parce qu'aujourd'hui on dit toujours « mais tout le monde fait comme ça ». Mais très bien, à l'époque personne faisait comme ça. Mais qui a eu le dernier mot, c'est nous. Hein, nos pères, nos mères, ceux qui ont fait tout ce travail. Donc cette question-là, elle continue à courir. Il est dramatique que personne n'ait proposé l'inscription de la laïcité, ni dans la Constitution de 2005, ni dans le texte du traité de Lisbonne. On a discuté de savoir si on évoquait l'héritage culturel lié aux religions. Ce qui est absurde, parce que qui va discuter le fait qu'en effet, il y a eu des musulmans, des juifs, des catholiques, des protestants sur les terres d'Europe? Qui peut contester un fait historique de cette nature? Mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait évoquer aussi, des faits culturels. Et nous ne sommes pas d'accord pour dire « la question est réglée, monsieur Mélenchon, du moment qu'on vous a rajouté les philosophes et les incroyants ». Mais pas du tout, c'est que l'espace public n'appartient à personne et nous n'avons pas à nous réclamer de ces choses-là. Bon. Aujourd'hui, sur la question de l'identité, on en parlera peut-être tout à l'heure, cette question, elle revient évidemment. C'est la tentative pour définir qui est sujet de l'histoire par autre chose que par la communauté légale, une et indivisible. Vous êtes tous égaux à la condition que vous délibériez tous de la loi, parce que c'est la condition pour que vous acceptiez qu'elle s'applique. J'accepte que la loi s'applique à moi, y compris quand je ne suis pas d'accord, même si c'est 51 qui ont raison contre 49, ce qui après tout se discute, a été discuté à de nombreuses occasions dans l'histoire, tout simplement parce que j'y ai eu ma part à égalité avec celui qui n'est pas du même avis que moi, et que nous avons consenti ensemble à cette règle 51-49. Des fois, c'est pas 51-49, c'est 60-40, il y a des majorités qualifiées. D'accord ? Donc même le mode de décision a lui-même fait l'objet d'une délibération. Nous ne pouvons être égaux, et donc concrètement semblables, qu'à cette condition d'être citoyens. Et nous ne pouvons être citoyens que si nous sommes libres. Et être libre, ça veut dire que nous délibérons, quelles que soient nos propres idées, uniquement avec le seul outil qui est la première ligne du discours de la méthode de Descartes, qui dit « la raison est la chose la mieux partagée du monde ». Mais nous sommes tous aptes à la raison. Et donc, pour prendre notre décision, c'est pas « c'est comme ça », c'est « je propose que » pour telle et telle raison. Et je m'y oppose pour telle et telle raison. Et nous avons donc, comme première instance, la liberté de conscience, comme deuxième instance, la raison pour décider en démontrant ce que nous proposons, et donc en troisième instance, le débat argumenté. Et c'est cet ensemble qui fait la citoyenneté. Au point que on pourrait dire que nous ne sommes pleinement humains, nous ne sommes pleinement humains que quand nous sommes citoyens. Parce que c'est le moment où nous cessons d'appartenir à une catégorie particulière, à un sexe, à un genre, à une couleur de peau, à une religion. C'est le moment où nous mettons en lien avec les autres et où nous délibérons de l'intérêt des autres, donc ceux qui nous soutient. C'est à ce moment-là qu'on est complètement humain. Et au fond, Thucydide, ça date du 5e siècle avant notre ère, disait, ça c'est ma citation pour la fin, il faut toujours avoir une citation pour la fin, quand on est un beau français, il dit, Thucydide, il dit, au fond, le citoyen qui ne se mêle pas de politique, l'homme qui ne se mêle pas de politique, ne mérite pas qu'on dise qu'il est un citoyen paisible. Nous devons dire qu'il est un citoyen inutile. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thucydide, et ça date de 5 siècles avant notre ère. Voilà.